Nous connaissons les grands hommes de la parole de Dieu pour les grandes choses qu'ils ont faites. Nous les connaissons pour le miracle qu'ils ont accompli. Et nous sommes souvent impressionnés en pensant à ces personnages. On pense à Moïse, on pense à Élie, on pense à tous ces gens qui ont accompli des choses extraordinaires qui nous dépassent. On a l'impression véritablement qu'ils sont dans un autre monde que nous. Ce sont vraiment des surhommes dans une certaine mesure à nos yeux. On n'a jamais réussi à faire tomber le feu du ciel, on n'a jamais réussi non plus à arrêter la pluie parce qu'on a prié, on n'a pas non plus rencontré Dieu en montant sur une montagne comme Moïse l'a fait, on n'a pas ressuscité des morts comme Élisée. Et on a l'impression que ces surhommes, que ces héros de la foi, sont en fait non pas des héros mais des géants de la foi qui nous dépassent à bien des égards, heureusement. Heureusement, cependant, il y a un texte de Jacques qui nous dit « Élie était un homme de la même nature que nous ». Et ce n'est pas superflu de le rappeler quand on lit les histoires qui nous disent ce que ces hommes ont fait par la puissance que Dieu leur a donnée. Élie était un homme de la même nature que nous. Cependant, il y a parmi ces grands géants de la foi, un homme qui est géant pour des raisons que l'on ne connaît pas. On sait que c'est un héros de la foi parce que Dieu, nous dit le texte, le prie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le texte ne nous dit pas grand-chose. Je vous propose de le lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, au verset 21. Genèse, chapitre 5, verset 21, il est écrit ceci. Hénoc, âgé de 65 ans, engendra Methuséla. Hénoc, après la naissance de Methuséla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Hénoc furent de 365 ans. Hénoc marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et c'est tout ce que nous savons sur lui, d'après les Écritures. Quel miracle a-t-il fait? Quelle grande chose a-t-il faite? Nous ne savons pas. On sait simplement, nous dit le texte, qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Cette notion de marcher avec Dieu, de la marche chrétienne, cette image finalement qui est utilisée dans les Écritures, prend plusieurs formes. Il y a d'abord marcher devant Dieu. Et c'est une expression que l'on retrouve dans les Écritures, cette idée de marcher devant Dieu. Regardez par exemple dans le livre de la Genèse au chapitre 17, au verset 1er. Genèse, chapitre 17, verset 1er. Il est écrit ceci. « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Une invitation de Dieu à marcher devant sa face avec intégrité, marcher devant Dieu. On retrouve à plusieurs endroits cette notion. Elle est chargée de compassion, chargée d'amour. C'est cette idée d'un père qui place son enfant devant lui et qui le suit du regard. On est placé par Dieu de cette façon-là sous sa garde, sous sa surveillance bienveillante. C'est l'idée d'un père qui ne veut pas quitter son enfant des yeux de peur qu'il lui arrive quoi que ce soit de mauvais. Marcher devant sa face. Être finalement d'une façon constante sous le regard de Dieu, en présence de Dieu. Vivre comme si Dieu était avec nous en permanence. Savoir que rien de ce que nous faisons échappe au regard de Dieu. Nous trouvons dans les psaumes cette notion, par exemple dans le psaume 56, si vous voulez regarder ce texte avec moi, dans le psaume 56, au verset 13. Psaume 56, versets 13 et 14. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits, je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Marcher devant Dieu parce qu'il nous a délivrés, parce qu'il nous a gardés, parce qu'il nous a conduits. Et quelques pages avant, dans le psaume 32, au verset 8, se retrouve cette même notion. 32, verset 8, il est dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Marcher devant Dieu, c'est marcher dans la présence de Dieu, marcher comme si Dieu était avec nous constamment, marcher sous le regard d'un Dieu bienveillant qui veille sur nous, d'un Père qui veut nous conduire dans la bonne voie. Il y a d'abord marcher devant Dieu. Et puis nous trouvons aussi dans les Écritures cette idée de marcher derrière Dieu. Regardez dans le livre du Deutéronome au chapitre 6, comment cette notion nous est présentée au verset 14. Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 14. Il est écrit ceci. « Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. » Aller après Dieu, mais là, c'est différent, il s'agit d'aller après les faux dieux. Et cette idée, en fait, est issue des processions que les païens faisaient. Ils sortaient du temple, l'idole, l'image, la statue de leur Dieu, et tous les fidèles suivaient derrière dans une grande procession, avec des réjouissances, avec de la musique, avec des transes. On allait après le Dieu, il allait d'abord dans la procession. Cette image est reprise ici, vous n'irez pas après les faux dieux. C'est autrement dit, une mise en garde contre l'idolâtrie auquel le peuple était toujours tenté de recourir, c'est-à-dire d'un Dieu qui se voit, d'un Dieu plus concret, que l'on peut voir, que l'on peut suivre. Il y a des conséquences à cela. Aller derrière Dieu. Nous ne sommes pas appelés à aller derrière Dieu. Regardez dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 7. Le prophète avertit de ce qui se passe lorsque l'on va après les faux dieux. Jérémie, chapitre 7, verset 6. Dans les versets qui précèdent, le prophète invite à réformer vos vies. Il dit par exemple au verset 3, « Réformez vos voies et vos œuvres. » Et il avertit en disant, verset 6, « Si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu. » Aller après les autres dieux, ce sera toujours pour notre malheur. Et Dieu insiste en soulignant quelles seront les conséquences de l'idolâtrie et du rejet de Dieu dans la vie concrète et dans la vie pratique religieuse de son peuple. Il ne s'agit pas ici du disciple. Le disciple suit aussi son maître, mais dans le sens où il reproduit dans sa vie l'exemple du maître. Maintenant, aller après Dieu prend des dimensions différentes. On a des exemples dans les évangiles où l'on voit les disciples qui se placent derrière Jésus, pour de mauvaises raisons. Regardez par exemple dans l'évangile selon Marc, au chapitre 9. Évangile selon Marc, chapitre 9. Au verset 33, il est dit ceci. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Les disciples avaient une discussion à mener entre eux pour laquelle ils ne voulaient pas que Jésus entende. Alors ils avaient laissé Jésus prendre de l'avance sur le chemin et ils avaient traîné derrière pour régler leur petit compte entre eux. Jésus à distance, pensait-il, ne sait rien, n'entend rien, il est hors de notre petite affaire. Et ils ont commencé à discuter pour savoir qui était le plus grand. Parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela, parce qu'il est le chouchou de Jésus, parce qu'il a la bourse dans sa poche. Non, parce qu'il a été le premier appelé, parce qu'il est le plus âgé, parce qu'il est le plus jeune. Et vous pouvez voir ces disciples qui discutent comme des gamins pour savoir qui est le meilleur. Lorsqu'ils rencontrent Jésus à l'arrivée et que tout le monde se retrouve, Jésus leur demande, au fait, vous avez discuté quoi dans votre petit comité là-bas derrière ? Il est intéressant d'imaginer la naïveté des disciples qui pensent qu'il suffisait simplement de suivre Jésus d'un petit peu plus loin pour qu'ils ne sachent pas ce qu'il disait. Et nous avons peut-être la tentation de penser un peu la même chose, de nous mettre dans un petit coin pour discuter nos petites affaires et régler nos petits comptes, sans que le Seigneur ait affaire avec ça. Tournez une page, voulez-vous, dans le même évangile de Marc au chapitre 10, au verset 32. Marc chapitre 10, verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Jésus a pris du temps pour leur expliquer ce qui allait arriver avec lui lorsqu'il serait à Jérusalem. Qu'on allait l'arrêter, qu'on allait le maltraiter, le mettre à mort finalement, selon la prophétie des Écritures. Et il nous est dit ici, Jésus allait devant. Jésus savait où il allait, et il y allait avec courage. Mais les disciples suivaient derrière, et le texte nous dit qu'ils suivaient avec crainte. Ils marchaient derrière Jésus. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, nous retrouvons un autre exemple de cette marche derrière Jésus ou derrière Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 22, nous lirons le verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. N'oubliez pas, les évangélistes nous rapportent dans leur texte que lorsque Jésus a été pris, tous l'abandonnèrent. Pierre est là et il suit de loin. D'ailleurs, son cœur suit de loin ce Jésus qui se laisse faire, ce Jésus qui se laisse insulter, maltraiter. Il a du mal à s'associer avec lui. D'ailleurs, quelques instants plus tard, il dira, je vous jure, je ne le connais pas. Déjà là, Pierre suit de loin. Il ne va pas être devant, ni à côté pour le soutenir ou l'encourager, loin derrière. Comme pour ne pas s'associer avec lui, comme pour garder ses distances avec ce Jésus de loin. Marcher devant Dieu, devant sa face, avec intégrité. Et puis il y a marcher derrière Dieu. Lié au paganisme, comme on l'a vu tout à l'heure, ou lié avec une distance que l'on veut mettre avec le Dieu que l'on suit, au cas où on peut au moins se garder une porte de sortie. Mais le texte qui nous parle d'Enoch nous dit que Enoch a marché avec Dieu. Mais nous n'avons pas d'indication sur ce que marcher avec Dieu signifie. En tout cas, pas dans le texte qui nous parle d'Enoch. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Nous avons la même expression qui est employée avec Noé, par exemple. Dans la Genèse, au chapitre 6, au verset 9, il nous est dit que Noé marchait avec Dieu dans la justice, dans l'intégrité. Noé a marché avec Dieu pendant tout le temps où il a construit son arche, pendant les 120 ans, où en construisant, il prêchait en même temps. Il nous est dit que Enoch a marché pendant 300 ans avec Dieu. Cette idée de la marche, que l'on retrouve d'ailleurs aussi sous la plume de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Éphésiens, marcher avec Dieu. Permettez que je vous lise un ou deux paragraphes issus du livre « Patriarches et prophètes ». Qui me paraît intéressant dans la mesure où il met en pratique, il traduit dans la pratique ce que marcher avec Dieu peut signifier. Il est ici question d'Enoch justement. Marcher avec Dieu pour Enoch, ce n'était point passer des heures dans l'extase ou la contemplation, mais remplir fidèlement tous les devoirs de la vie quotidienne. Loin de s'isoler et de vivre en ermite, il se sentait investi d'une mission au sein de la société. Dans sa famille ainsi qu'au dehors, comme mari, comme père, ami et citoyen, partout et toujours, il vivait en serviteur de Dieu. Et cette sainte marche, cette harmonie avec Dieu dura 300 ans. Il est peu de chrétiens qui, avertis, qui n'ont plus que quelques jours ou quelques semaines à vivre, ne se sentent stimulés à se conduire d'une manière infiniment plus pieuse. Chez Enoch, au contraire, la foi grandissait et la ferveur augmentait avec les années, avec les siècles même. Malgré sa haute et solide culture, malgré sa vaste érudition, Enoch était le plus humble des hommes. Plus était constant chez lui le sentiment de la grandeur et de la perfection divine, plus il avait conscience de sa faiblesse et de ses imperfections. marcher avec Dieu comme Enoch, marcher avec Dieu comme Noé, marcher avec Dieu comme les autres prophètes des Écritures qui nous paraissent être des géants de la foi, en fait, c'est marcher chaque jour avec lui dans le quotidien, dans les choses de tous les jours, être son serviteur. Il ne nous est pas dit que Enoch a fait des miracles, qu'il a fait tomber le feu du ciel ou qu'il ait ressuscité des morts. Il nous est simplement dit qu'il a marché chaque jour avec Dieu pendant 300 ans. Autrement dit, marcher, c'est une manière de vivre. Nous retrouvons dans les Écritures aussi cette expression « marcher dans la voie du Seigneur ». Regardez par exemple dans le livre du Deutéronome au chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8. Ce message est adressé au peuple d'Israël peu de temps avant qu'il rentre dans la terre promise. Et c'est une sorte d'avertissement avant de leur ouvrir les portes de la terre promise. Deutéronome, chapitre 8, verset 6 dit ceci. « Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. » Pour marcher dans la voie du Seigneur, il faut observer ses commandements. La notion d'obéissance est attachée à cette marche avec Dieu, marcher dans la voie du Seigneur. Parce que, dit le texte, vous allez bientôt rentrer dans la terre promise, une terre extraordinaire. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec la situation que nous vivons aujourd'hui. Nous sentons, nous voyons les signes des temps se développer sous nos yeux et nous savons que le Seigneur est proche. Et nous sommes dans ce sens, nous aussi, sur le seuil de la terre promise, du paradis de Dieu, de la vie éternelle. Ainsi donc, l'appel qui était donné au peuple d'Israël qui allait rentrer dans la terre promise s'adresse aussi à nous qui sommes à la veille de rentrer dans la vie éternelle que le Seigneur offre à ses enfants. Un appel par conséquent à marcher dans la voie du Seigneur, à marcher aussi avec lui chaque jour, et à y associer l'obéissance auquel nous sommes invités. Vous remarquez le lien entre cette obéissance, car l'Éternel va te faire entrer. Il semble que cet accomplissement de l'obéissance dans toute notre existence soit nécessaire à cette entrée dans le royaume de Dieu. Et ce n'est pas surprenant quand on sait que finalement, durant l'éternité, nous allons vivre selon le mode d'emploi de toujours de Dieu, c'est-à-dire selon sa loi. L'apôtre Paul nous propose la même chose dans le Nouveau Testament, dans l'épître qu'il écrit aux Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 1er, dit ceci. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Et il continue dans ce texte à parler de toutes les vertus chrétiennes nécessaires pour que nous puissions marcher ensemble vers le royaume des cieux. Ainsi, marcher dans la voie du Seigneur, c'est finalement une image par laquelle nous sommes invités à suivre un certain chemin. Un chemin droit, un chemin de droiture, un chemin d'intégrité, un chemin d'obéissance, un chemin de communion avec Dieu. Et on ne peut pas s'empêcher à ce moment-là de penser à ce que Jésus disait, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il y a cette association avec le chemin, avec la personne même de Jésus-Christ dans cette marche quotidienne avec lui. Suivre, autrement dit, l'exemple de Jésus. Mais à ce moment-là, je vous entends dire, oui, oui, d'accord, mais moi, je ne suis pas Jésus, vous comprenez? Je ne suis pas Jésus. Je ne peux pas faire ce que Jésus a fait. Et nous avons de la joie et du plaisir à relire les évangiles pour nous imprégner de tout ce que Jésus a fait pour les gens qui l'entouraient. Mais là encore, nous nous sentons minuscules à côté de lui. Et pourtant, le ministère de Jésus n'a duré que 3 ans et demi. Qu'en est-il du reste de sa vie? Là encore, permettez que je vous lise un paragraphe tiré du livre Jésus-Christ. Jésus est notre modèle. Beaucoup de personnes s'arrêtent avec intérêt à considérer son ministère public, négligeant l'enseignement de ses premières années. C'est dans sa vie de famille qu'il est le modèle de tous les enfants et de tous les jeunes gens. Le Sauveur consentit à vivre pauvre pour nous montrer comment nous pouvons vivre près de Dieu, si modeste que soit notre sort. Il s'efforça de plaire à son Père, de l'honorer, de le glorifier dans les choses ordinaires de la vie. Il commença son œuvre en consacrant le simple métier de ceux qui sont obligés de gagner leur pain quotidien, se sentant au service de Dieu, tout autant lorsqu'il travaillait à son établi de charpentier que plus tard, lorsqu'il accomplissait les miracles en faveur des foules. Jésus se sentait, accomplissant le ministère auquel Dieu l'avait appelé, tout autant lorsqu'il rabotait les planches dans son atelier de charpentier que lorsqu'il accomplissait des miracles pour rendre la vue aux aveugles et la parole aux muets. Mais ça, je peux le faire aussi. Je n'ai pas besoin d'être à mes yeux ce Superman, ce géant de la foi. Ma foi m'appelle à marcher chaque jour avec Dieu dans ma vie quotidienne jusqu'à ce qu'il revienne. Géant de la foi, celui qui vit ce quotidien, n'est pas géant de la foi celui qui fait des miracles extraordinaires et spectaculaires. Sans quoi, nous repartons encore une fois dans ce schéma non biblique du salut par les œuvres. Ce prophète est-il grand parce qu'il a fait des grands miracles? Ou ce prophète est-il grand parce qu'il a marché chaque jour avec Dieu pendant toute sa vie? Ce disciple de Jésus a-t-il une valeur particulière parce qu'il a fait des œuvres plus grandes que d'autres? Ou bien parce qu'il a marché chaque jour avec fidélité et intégrité avec Dieu pendant sa vie? Ainsi, marcher avec Dieu prend une connotation différente. Et je repense à ces moments que Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden lorsqu'ils marchaient avec Dieu. Regardez dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous apprenons que Jésus marchait avec eux chaque jour. Il y avait un rendez-vous entre Adam, Ève et Jésus chaque jour. Et ce jour-là, Jésus est venu, comme d'habitude, pour passer du temps avec eux. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Ils avaient l'habitude de marcher avec lui chaque jour, d'avoir ce moment de communion, d'échange, de partage, ce moment de proximité, ce moment de complicité avec Dieu. Et puis, ce jour-là, vous savez, le texte nous le dit dans les versets précédents, il s'est passé quelque chose de grave. Ils ont en réalité coupé leur relation avec Dieu pour établir une relation nouvelle avec le diable, le serpent ancien. Alors, lorsque Jésus est venu, ils ont eu peur de lui. Et ils ne voulaient plus marcher avec lui. Ils ont été se cacher. En fait, ce que Enoch a fait, et ce que nous sommes invités tous à faire, c'est l'inverse de ce que Adam et Ève ont fait. C'est en fait réparer ce que Adam et Ève avaient détruit. Enoch marchait avec Dieu chaque jour. Adam et Ève ont coupé cette relation avec Dieu. Enoch et nous tous sommes invités aujourd'hui à restaurer cette relation qui nous fait marcher avec lui chaque jour jusqu'à ce qu'il revienne. Ainsi, Enoch, en marchant avec Dieu chaque jour, avait véritablement établi une nouvelle relation avec lui. Et pour prendre un mot que vous connaissez bien, on pourrait dire qu'Enoch avait apprivoisé Dieu. Ou bien, est-ce dans l'autre sens? Est-ce que c'est Dieu qui avait apprivoisé Enoch? Dans le livre Patriarches et Prophètes se trouve encore cette phrase. Dans les derniers jours, les serviteurs de Dieu devront faire entendre au monde un message semblable à celui d'Enoch, message qui sera également accueilli par le doute et le sarcasme. La piété de ce prophète représente l'état de sainteté qui sera exigé de ceux qui vivront lors du second avènement de Jésus-Christ et qui seront rachetés de la terre. Enoch devient finalement un type, une image de ce que nous sommes invités à être dans l'attente du retour de Jésus. Oh non, pas des surhommes et des surfemmes qui font des choses extraordinaires, qui méritent des articles dans tous les journaux, mais des hommes et des femmes qui marchent chaque jour avec Dieu et qui, dans leurs activités quotidiennes, professionnelles, d'école ou à la maison, ont conscience d'être dans ce qu'ils font des serviteurs et des amis de Dieu. Dans ce que nous apprenons sur Hénoc, il y a un détail que je trouve intéressant. Il nous est dit que à 65 ans, il a eu son enfant, Methuselah, celui d'ailleurs qui va vivre le plus longtemps de tous les êtres humains, selon le récit biblique. Et puis, le texte nous fait comprendre qu'Hénoc a marché avec Dieu à partir du moment où il a eu son premier enfant, pendant 300 ans. C'est probablement à partir du moment où il a tenu dans ses mains cet enfant, son premier enfant, qu'il a compris ce que ça veut dire que d'être un père. Et c'est ainsi que Dieu voudrait établir une relation avec nous, notre Père qui est aux cieux. Hénoc, portant dans ses bras son fils, a compris un peu mieux quelle était la position de Dieu à son égard à lui, qui le considérait comme son enfant. Il a fallu qu'il devienne père pour comprendre quel est l'amour d'un père pour son enfant, pour comprendre un peu mieux quel est l'amour de Dieu pour lui. Et touché par la grandeur de l'amour de Dieu, il a marché avec lui chaque jour. Il a vu ce que ça veut dire que d'être un père et il a compris ce que c'est que d'être un enfant. Il s'est vu comme l'enfant de Dieu. Et au travers de cet enfant qui a grandi sous ses yeux, il se voyait lui-même grandir sous le regard de Dieu. Ainsi, Hénoc devient cette image de celui que nous sommes invités à être dans notre attente du retour de Jésus. Nous pouvons avoir l'impression que notre vie n'est pas remplie de choses extraordinaires ou importantes, de choses qui ont une valeur pour quiconque, peut-être même pas à nos propres yeux. Cependant, la marche d'Hénoc avec Dieu nous montre à quel point Dieu voudrait que chaque journée, dans ce qu'elle contient de plus commun, soit le moyen pour nous de vivre comme des serviteurs de Dieu, comme des amis de Dieu, sous son regard, devant lui, pour que nous marchions avec lui. Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Eh bien, le prophète Michée le disait. Vous vous en souvenez? Il écrivait ceci au chapitre 6 de son livre. « Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Amen.